Merci d'écouter RFI. Il est 13h en temps universel, 8h à Port-au-Prince.
RFI Midi.
RFI Midi, suite et fin, avec une demi-heure consacrée à l'actualité d'Haïti et du continent américain. On va revenir sur le texte adopté ce week-end aux États-Unis pour éviter le shutdown et ses conséquences pour Haïti. Les lois HOPE et HELP sur le développement de l'industrie dans le pays ont été mises de côté. Elles expireront en septembre prochain. On va également évoquer Noël en ce jour de réveillon. À Haïti, d'abord, où l'esprit n'est vraiment pas à la fête. Dans les rues de Port-au-Prince, il n'y a presque pas de décoration. Les rassemblements sont rares tant l'insécurité est grande. Mais quelques familles font tout de même le choix de vivre ensemble ce moment. Noël aux États-Unis, c'est plutôt la grandeur et la démesure. Un Noël XXL à Atlanta, où les familles rivalisent d'ingéniosité pour parer leur maison aux couleurs des fêtes. Et puis l'actualité des Caraïbes, c'est avec Serge Massot, d'Outre-mer la première. Serge, vous revenez sur Manuel Valls, un ancien Premier ministre, pour gérer les Outre-mer.
Oui, du mépris, du réchauffé, les premières réactions sont plutôt sceptiques de la part des parlementaires antillais, vous l'entendrez.
À tout à l'heure. Mais d'abord, c'est le journal avec vous, Gali Bonin, bonjour.
Bonjour. Et nous commençons ce journal dans les rues de Jérusalem. À la veille de Noël, l'ambiance est morose dans la ville sainte. Pas de touristes, pas de pèlerins ni de foule dans les rues. Et surtout des gares régionales en toile de fond. Le reportage de Michel Paul dans la vieille ville de Jérusalem.
Une procession traditionnelle de la veille de Noël aux abords du Saint-Sépulcre, mais pas de décoration pour la fête cette année dans le quartier chrétien de la vieille ville de Jérusalem. Maria résume l'ambiance en quelques mots.
50-50, I don't know.
Je ne sais pas. Personnellement, je suis contente, mais je ne suis pas heureuse de tout ce qui se passe dans le monde.
Profession changeur de devise, mais pas de pèlerin pour la seconde année consécutive, donc pas de travail pour Mansour.
Cette année, en raison des circonstances, la guerre qui se déroule en Syrie, au Liban et à Gaza, tout le monde est triste. C'est pour ça que les églises ont annulé les célébrations. Il y a seulement les prières.
Nathalie, elle, habite à Bethléem. Les Palestiniens se sentent abandonnés, affirme-t-elle.
Les ondes sont vraiment tristes. On ne peut pas fêter Noël quand on voit ce qu'endure notre peuple à Gaza. Personne n'y prête attention. Dans le monde, on fête comme si de rien n'était.
Beaucoup de boutiques sont fermées. Ce n'est pas un Noël comme les autres, estime un des marchands. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Et de l'autre côté de la frontière, en Syrie, les chrétiens n'ont pas l'esprit tranquille pour le réveillon. Des manifestations ont éclaté dans plusieurs quartiers chrétiens de Damas. Les croyants protestent contre l'incendie d'un sapin de Noël près de Hama, dans le centre du pays. Un acte isolé mais symbolique qui alimente la crainte des chrétiens après la prise du pouvoir par une coalition menée par des groupes islamistes. Un nouveau pouvoir donc qui se consolide à Damas. Le gouvernement annonce un accord avec tous les groupes armés du pays. Ils seront dissous et intégrés à l'armée nationale. Une annonce qui survient deux jours après qu'Ahmad al-Shaere, le nouvel homme fort du pays, ait affirmé que toutes les armes du pays seraient retournées sous contrôle de l'État. En France, les membres du gouvernement fraîchement nommés prennent place dans leurs ministères respectifs. Plusieurs visages de la Macronie dans ce premier gouvernement Bayrou, dont Gérald Darmanin, ancien ministre de l'Intérieur. Il prend poste à la chancellerie, le ministère de la Justice, où il vient de relever Didier Migaud. Passation de pouvoir entre deux hommes aux origines politiques différentes et une rupture radicale à venir, Baptiste Coulon.
Il dit quitter le ministère à regret, 3 mois seulement après son arrivée.
L'une des périodes à la fois les plus courtes et les plus heureuses de ma vie professionnelle.
Il n'a pas encore passé la main à son successeur que Didier Migaud regarde déjà dans le rétroviseur. Mais en 3 mois d'exercice, le bilan est maigre. Il évoque son combat pour défendre le budget du ministère, puis se projette, pose des jalons, partage un combat qui lui tient à cœur.
Je pense au débat auquel j'ai pu moi-même contribuer en relançant la question de la nécessaire prise en compte du consentement. Même si cette question est sensible, les temps ont changé et le 21e siècle ne doit plus être celui de la domination des hommes sur les femmes.
L'ex-socialiste passe la main à Gérald Darmanin, l'homme de droite. Ses priorités tiennent en 3 mots, détermination, célérité, fermeté, changement de discours et rupture radicale.
Dans les tout prochains jours, les procureurs dont je connais le rôle primordial recevront des instructions générales de politique pénale très claires et très fermes pour engager systématiquement des poursuites contre les violences faites aux personnes, contre le séparatisme islamiste, contre le narco-banditisme. qui sera la priorité absolue de mon mandat au ministère de la Justice.
Une proposition de loi contre le narcotrafic arrivera au Sénat courant janvier. Gérald Darmanin promet une pleine coopération avec le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, l'autre poids lourd de droite de ce gouvernement.
Baptiste Coulon du service politique de RFI. Et cette nomination de Gérald Darmanin qui fait polémique, le garde des Sceaux a été accusé de viol et de harcèlement sexuel en 2018. Une plainte qui a été classée sans suite en 2020. Mais pour de nombreuses associations féministes, cette nomination est inacceptable. Emmanuel, militante de l'association féministe Nous Tous, réagit au micro de Théo Prouvost.
Nous sommes très choqués de la nomination de Gérald Darmanin au ministère de la Justice hier. Il s'agit donc d'un agresseur présumé qui est renommé ministre, cette fois-ci de la justice. C'est pour nous une ultime provocation, encore un retour de bâton. On est après le procès des viols de Mazan. On n'a pas arrêté de nous demander est-ce qu'il y aura un avant, un après. Ben voilà, on est dans l'après-Mazan et un agresseur présumé se retrouve à la tête du ministère de la Justice. Ça s'en va en fait, on marche sur la tête. Le collectif Nous Toutes y voit un lien direct. On nous envoie un signal inverse et c'est absolument inacceptable.
Emmanuel, une militante de l'association Nous Toutes. À Hong Kong, en Chine, le gouvernement local vient d'annuler les passeports de 7 militants pro-démocratie exilés en majorité au Royaume-Uni et au Canada. 6 autres sont toujours recherchés. La police de Hong Kong offre une récompense pour toute information pouvant conduire à leur arrestation. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin, qui ne relâche pas la pression, y compris sur les militants basés à l'étranger. Les précisions de Yelena Tomic.
Les autorités hongkongaises n'ont pas l'intention d'abandonner les poursuites contre les figures de la contestation de 2019 et qui s'opposaient à la reprise en main de Hong Kong par la Chine. En vertu de la loi sur la sécurité nationale qui s'est renforcée en mars avec l'article 23, la répression s'est même accrue contre la dissidence. Aucun répit donc pour les militants pro-démocratie qui ont pu s'exiler à l'étranger, considérés par le pouvoir à Hong Kong comme des ennemis publics numéro un, coupables d'incitation à la sécession et de collusion avec un pays étranger, d'où cette décision de révoquer leur passeport. Parmi les 7 militants concernés par l'avis gouvernemental, on retrouve 2 anciens parlementaires, Ted Hui et Dennis Kwok, un avocat exilé à New York qui a été rayé du barreau de Hong Kong, tout comme son confrère Kevin Yam, exilé lui à Melbourne. En juin déjà, une mesure semblable avait été prise contre Nathan Lau et 5 autres figures du mouvement de contestation. La police de Hong Kong a également, pour la 3e fois, offert des récompenses de près de 125 000 euros pour toute information pouvant mener à l'arrestation de 5 personnes, dont un YouTuber inculpé pour subversion.
Yelena Tomic. Après Yoon Suk-yeol, le principal parti d'opposition sud-coréen veut maintenant faire tomber son remplaçant. Le président par intérim Han Duk-soo est aussi premier ministre. Il est du même mouvement politique que Yoon Suk-yeol, renversé après avoir voulu imposer la loi martiale dans le pays. Et une invention humaine n'aura jamais été aussi proche du Soleil. La sonde Parker de la NASA s'apprête à battre un record de proximité pour la veille de Noël, une proximité toute relative à l'échelle du cosmos, 6,2 millions de kilomètres. À cette distance, il subira des chaleurs infernales. Objectif, comprendre le fonctionnement du Soleil. Simon Rosé, la NASA doit savoir vendredi si Parker a résisté à cette mission.
Et oui, c'est un des grands secrets du Soleil. Sa surface est relativement froide, hein, 6000 degrés. Alors que sa couronne, pourtant éloignée de plusieurs millions de kilomètres, est plus chaude, 1000 fois plus chaude. Pourquoi ? Eh bien, pour le savoir, la NASA a envoyé une sonde mener l'enquête sur place. Alors bien sûr, Parker Solar Probe ne va pas plonger dans un enfer à plusieurs millions de degrés, mais elle s'en approchera autant que possible. C'est le but de la manœuvre en cours. Au plus proche, elle sera à 6 millions de kilomètres de la surface du Soleil. Ça peut sembler loin, mais cela correspondrait à 4 cm si on ramenait la distance Terre-Soleil à 1 mètre. Bref, c'est prêt et c'est chaud, 1400 degrés et des radiations extrêmes. Pour encaisser le choc, Parker Solar Probe a un épais bouclier de 12 cm en carbone et la sonde va traverser cette fournaise le plus vite possible à 700 000 km/h. Même si elle est conçue pour, l'opération reste périlleuse et d'autant plus angoissante pour ses pilotes que l'engin est hors de contact avec la Terre. La fenêtre de transmission ne se rouvrira que jeudi.
Simon Rosé, merci. Et voilà, c'est ce qui met fin à ce journal. Restez à l'écoute de RFI Midi parce que je vous laisse entre de bonnes mains. La suite, c'est avec vous, Arthur Ponchelet.
Merci, Gali Bonin. On vous retrouve dans 2 heures pour un nouveau journal.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Haïti en avait bien besoin, mais pour l'instant ça ne passe pas. Les industriels haïtiens misaient sur la prolongation des lois Hope et Help au Congrès américain. Des dispositifs de soutien au secteur textile en vigueur depuis la fin des années 2000. Eh bien c'est raté en raison de la pagaille budgétaire de la semaine dernière à Washington. Pour éviter le shutdown, certains programmes dont Hope et Help ont dû être mis de côté. Ce n'est pas encore perdu pour Haïti, mais ça se complique. L'échéance approche, septembre 2025, pour leur expiration. Dossier signé Abla Jounaïdi.
Les programmes Hope Help favorisent les importations américaines de produits textiles venant d'Haïti. Un projet de loi devait les prolonger jusqu'en 2035, samedi dernier. Il a été éclipsé par le risque de shutdown. Mais le programme n'est pas encore enterré, nous explique l'économiste haïtien Enomi Germain.
La loi arrivera à expiration en septembre 2025. Il y a encore possibilité de renouvellement. Évidemment, il y a une situation politique qui sera beaucoup plus difficile, notamment avec Donald Trump, parce que avec lui, de toute façon, c'est l'Amérique d'abord, il a dit ça. Donc, les autres pays compteront un petit peu moins pour lui. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. C'est tout simplement que la loi Hope n'était pas à l'ordre du jour au Congrès américain le week-end dernier.
L'Association des industries d'Haïti promet de poursuivre ses efforts pour remettre à l'agenda la législation qui prolongerait Hope Help, des programmes cruciaux pour l'économie du pays, Enomi Germain.
Ce serait extrêmement dommage pour Haïti, ce serait une situation de non-assistance à un pays en danger de la part des États-Unis d'Amérique. C'est le secteur, après le secteur public, qui est le plus important en Haïti en matière d'emploi. Évidemment, on a perdu plus de 30 000 emplois, si vous voulez, au cours des trois dernières années, dans le secteur de la sous-traitance, en tout cas qui est favorisé par les États-Unis d'Amérique à travers la loi Hope. Donc si ça ne se renouvelle pas, en tout cas c'est un pays qui va continuer à effondrer davantage, étant donné qu'il n'y a absolument plus rien qui va rester.
Haïti exporte 1 milliard de dollars de marchandises vers les États-Unis chaque année. 90% proviennent de cette sous-traitance. Enomi Germain plaide depuis des années pour diversifier l'économie haïtienne. Mais cela ne se fera pas sans un ingrédient essentiel.
Pour arriver à développer l'économie en Haïti, on a besoin d'une situation de stabilité. Il ne faut pas oublier que dans le passé, ça a été un pays justement qui était à l'avant-garde touristique dans la Caraïbe, mais aujourd'hui on est le dernier. Pourquoi? Parce que tout simplement on n'a pas une situation de stabilité politique. Et pour moi, aujourd'hui, le devoir numéro un, c'est le devoir de la stabilité politique et sociale dans ce pays.
À cause de l'insécurité et de l'instabilité politique, plusieurs sites industriels du pays ont dû réduire leur activité et licencier du personnel ces dernières années, à commencer par le parc industriel de Caracol dans le nord d'Haïti, financé par les États-Unis et longtemps symbole d'espoir de progrès économique pour les Haïtiens.
Abla Jounaïdi, l'insécurité et ces nouveaux chiffres livrés par le BINU, le Bureau des Nations Unies en Haïti. Bonjour Vincent Sorio.
Bonjour.
Le bilan du massacre de Wharf Jérémy est revu à la hausse.
On savait que le décompte n'était pas définitif. Les Nations Unies avaient avancé un total provisoire de 184 morts. Elles parlent désormais d'au moins 207 victimes en moins d'une semaine, entre le 6 et le 11 décembre. Massacre, je le rappelle, perpétré par le gang de Mykhanor Aliyev, qui s'en est pris aux habitants de Wharf Jérémy après le décès de son nourrisson. Le BINU confirme que des centaines de civils ont été enlevés, rassemblés, interrogés, puis exécutés, et que les auteurs de ce carnage ont tenté de maquiller leurs crimes en brûlant les corps ou en les démembrant avant de les jeter à la mer. Stéphanie Tremblay, l'une des porte-paroles de l'ONU.
La plupart des victimes sont des personnes âgées qui ont été accusées de pratiquer le vaudou et d'avoir délibérément provoqué la maladie de l'enfant de ce chef de gang. Parmi les autres victimes, on compte des gens qui ont tenté de fuir la zone du massacre ou des gens accusés d'avoir alerté les médias locaux au sujet de ces crimes.
L'ONU en Haïti qui a compilé ces chiffres pour l'année 2024, 5350 morts et plus de 2100 blessés depuis le début de l'année en raison du chaos sécuritaire qui touche encore et toujours le pays.
Le chaos sécuritaire donc, Vincent Sourio, avec ces éclats de violence quotidiens, ces rackets et ces viols, ils ne connaissent aucun répit alors qu'Haïti se prépare à célébrer Noël. À Port-au-Prince, quasiment pas de traces des fêtes de fin d'année, décorations inexistantes et traditions en perdition. Reportage de notre correspondant Peterson Luxama.
À Port-au-Prince, cette année, Noël n'a pas trouvé sa place dans le cœur des habitants. Étouffé par l'insécurité, une crise économique sans précédent, des citoyens expriment leur désarroi. Maxime est un chauffeur de taxi-moto. Pour lui, Noël, cette année, n'est qu'une illusion.
À ce que je vois, il n'y a pas de fête cette année. Ce n'est pas une bonne fête du tout. L'année dernière, la situation était meilleure. C'est le problème de l'insécurité qui détruit le pays. S'il y a une fête, ce n'est pas pour nous, les plus démunis.
Dieu Sibon, un autre citoyen rencontré, partage le même avis. Assis devant son petit commerce de boissons gazeuses, non loin de la place Saint-Pierre à Pétionville, le père de deux enfants l'affirme. L'ambiance de Noël a disparu. Près de chez lui, rien ne permet de dire qu'on est en période de fête.
Je ne vois pas de fête cette année. Dans mon quartier, dès qu'il est 18h, tout le monde rentre chez soi. Je ne peux aller nulle part pour trouver une ambiance festive. Dans certains endroits, tu vois des jeunes jouer au foot, au basket. Mais moi, dans la zone où je vis, je ne vois rien de tout ça.
C'est presque la même réalité pour Marlène, mère de trois enfants. Habitante de Honaville, bidonville située à Croix-des-Bouquets, envahie par des gangs, elle a dû abandonner sa maison depuis un an. Depuis, elle dort chez des proches. Parler de fête pour elle, c'est presque un luxe.
J'ai des enfants, je ne peux pas les habiller, je ne peux pas manger, je suis hébergée chez des gens. Presque tous les jours, je dors à un endroit différent. Je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, je ne suis pas en mesure de dire que je suis dans l'esprit de la fête.
Pour beaucoup, Noël n'est donc plus la fête qu'elle était auparavant. La période, habituellement marquée par l'effervescence des marchands ambulants et des préparatifs, est cette année en pointe de morosité. Magdala, croisée à Pétionville, se remémore avec nostalgie les Noëls d'autrefois. Des moments qui, selon elle, étaient bien différents de la réalité actuelle.
Autrefois, c'était mieux. On voyait les gens acheter des vêtements, il y avait des sapins de Noël partout. Ta mère te forçait à aller dormir en te disant que le Père Noël allait apporter des cadeaux, alors que c'était elle qui venait glisser une petite poupée sous ta tête, sous ton oreiller.
Mais quelques-uns ne veulent pas perdre espoir. Salomon tient malgré tout à cultiver l'esprit de Noël en dépit des difficultés.
Il y a un groupe de personnes qui a choisi de ne pas abandonner l'espoir, de croire encore en l'esprit de Noël, cet esprit de partage. Dans ce contexte difficile, la solidarité est de mise partout en Haïti. Nous faisons de notre mieux avec les moyens du bord pour garder vivant en nous l'esprit de Noël.
Un optimisme que peu partagent. L'insécurité omniprésente et la situation économique délétère du pays pousse les habitants de Port-au-Prince à tourner le dos à la Noël. La joie et l'unité n'est pour beaucoup plus qu'un lointain souvenir. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
Port-au-Prince où il est 8h17, même heure à Washington, les États-Unis, où l'actualité est toujours très politique, moins d'un mois avant la prise de fonction de Donald Trump. Le feuilleton aura duré des semaines, mais cette fois on sait enfin ce que la Chambre des représentants reproche à Matt Gaetz, cet élu que Donald Trump pensait nommer ministre de la Justice au mois de janvier avant que l'intéressé ne jette l'éponge. Le rapport de la Chambre basse du Congrès vient d'être publié et il est corsé, Loubna Anaki.
À en croire les médias américains, c'est un rapport qui devrait faire l'effet d'une bombe. Après plus de 2 ans d'enquête et d'audition, la commission d'éthique de la Chambre des représentants a dévoilé ses conclusions autour de l'ancien élu trumpiste Matt Gaetz. Dans le document de 37 pages, la commission affirme que l'ancien représentant de Floride a, je cite, payé des femmes à hauteur de dizaines de milliers de dollars en échange de relations sexuelles ou de drogue. Et toujours selon ce rapport, l'une de ces femmes était une mineure de 17 ans. Des révélations démenties par Matt Gaetz qui, tout en reconnaissant avoir, je cite, « trop fait la fête, couché, bu et fumé à un moment de sa vie, ni avoir eu toute relation sexuelle avec des mineurs ». Il assure être victime d'un coup politique, lui qui avait un temps été désigné par Donald Trump comme prochain ministre de la Justice avant de devoir y renoncer. Ses avocats ont d'ailleurs déposé plainte auprès d'un tribunal fédéral pour bloquer toute publication de ce rapport parlementaire. Il est peu probable que ces révélations aient des conséquences judiciaires pour Matt Gaetz, d'autant plus que le département de la justice avait déjà enquêté, mais avait préféré ne pas donner de suite faute de preuves suffisantes. Loubna Anaki, New York, RFI.
Suite judiciaire ou non, Vincent Souriau, on l'ignore encore, mais la presse américaine revient en détail sur la manière dont les cadres du Parti républicain ont tenté de couvrir les agissements de ce protégé de Donald Trump.
Et oui, à lire ou relire dans The Hill, le quotidien politique de Washington, comment Mike Johnson, par exemple, le président de la Chambre des représentants, a fait pression pour que ce rapport ne soit pas publié. Je pense qu'il s'agirait, disait-il, d'une grave violation de protocole. La publication des conclusions de cette enquête créerait un terrible précédent. Le patron du comité d'éthique de la Chambre, lui aussi, avait fait part de ses réticences à rendre public un travail, je cite, inachevé. Mais fait rare au Aux États-Unis, ils ont été désavoués et les élus de la Chambre ont fini par voter en faveur de sa publication.
Reste, Vincent, la question de l'avenir de Matt Gaetz dans le paysage politique américain.
Il a démissionné de la Chambre des représentants quand Donald Trump l'a désigné comme futur ministre de la Justice. Mais maintenant que ce rapport est sorti et que ses frasques sont sur la table, où va-t-il atterrir ? Commentateur politique, oui, ça c'est sûr. Il commence un contrat d'éditorialiste sur une chaîne de télé conservatrice au mois de janvier. Mais un poste d'élu, là, ce sera beaucoup plus difficile. Gaetz n'exclut pas pourtant de se lancer dans la course au titre de sénateur de Floride, mais comme le souffle un responsable politique, ses électeurs potentiels ou ses futurs employeurs feraient bien de jeter un œil à l'enquête de la Chambre des représentants avant de prendre une quelconque décision à son sujet.
Heureusement pour Matt Gaetz, tout ça lui est tombé sur la tête un 23 décembre. La parenthèse de Noël va passer par là. Et on sait que les Américains prennent les fêtes très au sérieux dans certains quartiers d'Atlanta, en Géorgie, avec une gentille rivalité naissante entre voisins autour d'une question fondamentale. Qui aura le mieux fait vivre la magie de Noël ? Reportage d'Edouard Maille.
Pour se rendre chez Earl Anderson, une allée bordée de cannes rouges et blanches à l'image des confiseries, des sucres d'orge, de la musique est diffusée et sur la pelouse un bonhomme en pain d'épices, le Père Noël, son traîneau tiré par ses rênes et un bonhomme de neige de 3 mètres de haut. Les décorations sont gonflées par des pompes électriques, tout cela pour le plaisir des 14 petits-enfants du grand-père.
Il trouve ça formidable. Quelqu'un m'a dit qu'on dirait le pôle Nord, mais je n'ai pas encore mis la neige. J'attends que la pluie passe. Je vais ensuite recouvrir le jardin de fausse neige. Je décore car c'est la tradition. Mes parents le faisaient quand j'étais petit et désormais je fais la même chose pour mes petits-enfants.
Mais pour Earl, il n'y a aucune compétition entre voisins. Les décorations sont au service de la magie de Noël.
On ne pense pas à la compétition. Chacun fait ce qu'il veut. Certains en mettent et d'autres pas. Mais peut-être que certaines personnes peuvent voir une maison et décider d'ajouter à la leur des décorations.
Quelques rues plus loin, des décorations gonflables et un traîneau en bois construit par le mari de Heather. La famille achète chaque année un nouvel élément et Heather a mis du temps à accepter ces figures de Noël gonflables.
Quand j'étais petite, on avait des décorations assez minimalistes, juste des lumières blanches. Aujourd'hui, certaines maisons sont restées assez classiques et d'autres ont un mélange comme la nôtre. On a des décorations gonflables et les choses en bois. Pour moi, plus c'est ringard, mieux c'est. J'étais contre les décorations gonflables avant. Je pensais que j'en aurais jamais. Mais maintenant, je les vois avec les yeux de mes enfants. Et plus il y en a, mieux c'est.
Et tous les ans, c'est la compétition pour le meilleur jardin.
Les États-Unis aiment l'excès. Plus il y a de décorations, plus il y a de magie. Et ça peut être compétitif. Nos amis en haut de la rue le font aussi. C'est un peu qui a le plus de décorations. Ceux qui en ont le plus gagnent. Mais ce sont des amis. Nos enfants ont le même âge et vont à l'école ensemble. On n'a que 3 décorations gonflables et eux en ont une de plus. Ils gagnent en nombre, mais les nôtres sont plus grandes. Et plus c'est grand, mieux c'est.
Dans le même quartier, Carly joue avec son fils de 2 ans sous leur porche avec une décoration plus traditionnelle.
On a des lumières à l'extérieur de la maison, de grandes pommes de pin qui pendent sous le porche. Et puis on a un bonhomme de neige qui s'allume et quelques sucres d'orge.
Elle ne voit pas de rivalité avec les autres maisons du quartier, mais plutôt un encouragement à décorer sa maison.
Ça peut être une source d'inspiration ou de motivation. Vous voyez que votre voisin a quelque chose de joli et vous vous dites, eh bien, on devrait faire pareil sur notre maison pour qu'elle soit jolie aussi. Et décorer sa maison pour le quartier, de ce que j'ai vu ici, les gens s'amusent. Rien de trop sérieux, c'est amusant et festif.
Toutes ces décorations ont un prix, selon des données récoltées par l'entreprise Exploding Topics sur les fêtes de fin d'année. En 2023, les Américains ont dépensé en moyenne 826$ pour des cadeaux, 147$ pour la nourriture et 231$ pour les décorations, soit 19% du budget.
Il est 8h24 à Atlanta, 7h24 à San Salvador. On part tout de suite pour le Salvador, où hier, les députés ont voté une loi très critiquée qui va relancer l'extraction des métaux dans le pays, une pratique pourtant interdite depuis 2017. C'est Ernesto Castro, le président du Parlement, qui annonce le résultat. La loi générale sur l'exploitation minière métallique est approuvée. 57 voix pour sur 60 députés. Il faut dire que le parti du président Nayib Bukele domine largement l'Assemblée. Mais pendant que ça débattait à l'intérieur, environ 300 militants écologistes manifestaient devant le Parlement. Parmi eux, Vidalina Morales, une figure de la lutte environnementale. Si cette loi passe, dit-elle, ces députés seront vus comme des traîtres à la patrie, comme des ennemis de la vie. Ce qu'on espère, c'est qu'ils reviennent sur leurs décisions, que ce peuple qui crie pour protéger ses terres et ses communautés soit entendu. Et Vidalina Morales n'était pas la seule à s'opposer à ce texte. Les députés de l'opposition, largement en minorité, le dénonçaient. Eux aussi, pour Francisco Lira, l'exploitation minière est une mesure impopulaire qui aura un impact environnemental négatif. Il est 7h25 à San Salvador, 13h25 en temps universel.
Le journal de l'Outre-mer.
L'actualité des Caraïbes avec vous, Serge Massot et l'ancien Premier ministre Manuel Valls, c'est donc le nouveau ministre des Outre-mer.
Un ancien Premier ministre, ministre d'État numéro 3 dans l'ordre protocolaire, c'est donc un poids lourd de la politique qui va gérer les Outre-mer. Mais le député guyanais David Riemann parle de mépris, du réchauffé pour le député de la Guadeloupe Christian Baptiste. Et la sénatrice de la Martinique Catherine Conconne n'est pas non plus convaincue. Écoutez-la.
Je ne crois pas aux hommes et aux femmes providentielles. Je crois que plus que jamais, notre peuple doit faire peuple, doit montrer des niveaux importants de maturité, être dans la construction, être dans l'élaboration des meilleurs projets. Et en face du pouvoir, il faudrait être prêt. Il faudra avoir de la matière, autrement dit travailler, avoir des dossiers bien montés, bien ficelés, bien argumentés, au-delà de nos émotions des uns et des autres, de nos égos des uns et des autres, et être prêt à dire voilà ce qu'il y a de meilleur pour nous, voilà sur quoi nous sommes d'accord. C'est cette posture qui est la plus importante pour moi.
En Martinique, le 26e homicide de l'année. Cette nuit, un homme a été tué dans une fusillade dans le quartier de Terre-Saint-Ville à Fort-de-France. Et puis en Guadeloupe, la route particulièrement meurtrière avec 52 tués cette année contre 39 l'an dernier. Alors pour alerter, Samuel Nier, elle n'est pas créé au bord de la route menant à l'aéroport un cimetière éphémère avec des croix représentant ces 52 victimes de la route. Écoutez-le.
Le déclic a été le nombre de tués qu'on a eu entre fin septembre et mi-décembre, en fait. Hein. Je crois qu'en fin septembre, on était à 37 morts. Là, on est à 52. La chose qui a vraiment accéléré le processus, ça a été l'accident de Sainte-Anne, où on a encore une fois perdu des jeunes, on a perdu 4 enfants. Et là, je me suis dit, bon, il faut que j'arrive à faire quelque chose dans cette période de Noël, sachant que bon, ben, y a une excitation globale, générale sur les routes. Et l'idée, c'était pouvoir vraiment essayer de se poser des questions sur pourquoi est-ce qu'on en arrive là. Pourquoi est-ce que, par exemple, au même titre, la Martinique a 25 morts, aujourd'hui, nous, on en a le double. J'ai essayé de rendre hommage déjà aux victimes, 52 personnes à ma façon. Puis c'était aussi vraiment une façon de faire les automobilistes qui passent là se dire qu'on a vraiment un problème.
Des propos recueillis par Olivier Duflot de Guadeloupe la Première. Le réveillon de Noël se prépare dans un contexte de vie chère. Alors combien les Martiniquais ont-ils dépensé cette année pour cette soirée de fête ? Élément de réponse au micro de Xavier Chevalier de Martinique la Première.
Avec la vie chère là, ça sera beaucoup moins.
Il est moins. C'est bien 50% de moins par rapport à l'année dernière. Ouais. Parce qu'il y a l'inflation, parce que la vie est dure. Quoi. Je me suis surprise à regarder tous les prix maintenant. Avant, j'achetais et puis bon, j'avais envie de ça, je prenais ça. Maintenant, je prends le moins cher.
Ouh, il n'y a plus de budget. Tout ce qu'il y a, on croque à votre boy.
Moins important, parce que la vie devient un petit peu compliquée. Donc du coup, on fait avec ce qu'on a. Et puis on prend quand même plaisir, mais on fait avec ce qu'on a. Pour ne pas se retrouver en difficulté par la suite. On va dire moins 40.
Et c'est ainsi que se termine ce journal. Bonne journée, bon Noël à vous.
Bonne journée et joyeux Noël, Serge Massot. Merci à vous. Il est bientôt 13h30 en temps universel, 14h30 à Paris. C'est ainsi que s'achève RFI Midi, préparé et réalisé aujourd'hui avec Stéphane Desfossés, Emmanuel Klotz et Anne Cantner. Merci à eux et merci à vous de nous avoir écoutés. L'information revient dans un peu plus d'une demi-heure avec le journal international de Juliette Pietraszewski. Et puis juste après, dans une minute, dans une poignée de secondes même, C'est De Vive Voix. Très belle journée à l'écoute de RFI.
RFI, la sélection du mois.
Setenta.
Vous êtes la seule à atténuer ma tristesse. J'ai beaucoup de champagne, on peut se mettre sous ivresse. Et c'est d'aller nos vies.
RFI Musique. Pénélope.